Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, une émission à trois voix avec du son et du fond, parce qu'on aime ça et parce qu'on y voit plus clair avec les oreilles.
En direct du studio 611, une émission réalisée par Jérôme Chélius, assistée de Lucie Valérie et mixée aujourd'hui par Ludovic Asselot, qui ne sont pas, rassurez-vous, une bande de fainéants, puisqu'ils vous ont préparé deux fables pour réfléchir à l'air du temps.
Et l'air du temps, cette semaine, on vous emmène le respirer à la campagne, là où ça se passe, là où ça casse. À Mâcon, en Saône-et-Loire, pour un portrait en deuil d'un paysan révolté, mort sous les balles des gens en armes pour avoir refusé de se soumettre aux diktats du système industriel. Et ceux qui pensent et construisent les alternatives, nous irons ensuite les rencontrer à l'Espiette, en Gironde, avec toi Antoine, pour découvrir la véritable histoire des trois petits cochons et de la maison en paille.
Le grand méchant loup le mange.
Jérôme était harcelé.
Pourquoi il l'a harcelé, lui, à ce point?
Ah, mais Jérôme n'était pas comme les autres non plus. Il avait envie de fonctionner autrement.
Jérôme, il avait envie que ça explose. C'est-à-dire qu'on en parle. Quand il parlait de l'agriculture, il l'a parlé avec révolte. Quelqu'un qui tient tête, ça agace tout le monde.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux, les bruits qui courent?
Comme un bruit qui court que nos campagnes sont à terre. Pas une semaine sans défaire part de paysans suicidés, acculés par la guerre des prix, saignés par la dette et des normes taillées sur mesure pour l'agro-industrie et qui épuisent les hommes tout autant que la terre. Alors cette semaine, Charlotte et Antoine nous emmènent dans deux coins du pays pour deux histoires, deux fables presque, qui racontent chacune à sa manière un peu de ce qui se passe dans nos campagnes, comme on y habite et travaille la terre, avec ceux qui refusent d'en rentrer dans les cases dictées par le marché, qui ne veulent pas se laisser abattre. Je dis abattre à tous les sens du mot, car la première de ces fables rappelle celle du pot de terre et du pot de fer, puisque Charlotte Perry nous raconte la mort d'un paysan révolté dont vous n'avez sans doute pas entendu parler.
Il s'appelait Jérôme Laronze, il avait 37 ans. Le 20 mai dernier, il a été abattu par les gendarmes à Sailly, en Saône-et-Loire, à l'issue d'une cavale de 9 jours, suite à un contrôle qui a mal tourné. Et effectivement, l'affaire n'a pas fait grand bruit. Pas une ligne dans la presse nationale, pas d'émeute non plus. Seulement quelques centaines de personnes qui se réunissent chaque mois à Mâcon pour lui rendre hommage et demander que justice soit faite. Des membres de la Confédération Paysanne, où Jérôme Laronze militait, sa famille, ses amis et quelques collectifs contre les violences policières, les sections locales de la CAT et de la LDH pour l'essentiel. Il faut dire que les paysans, ils en meurent tous les jours, mais pas de balles par la police. En général, c'est plutôt des suicides. Pourtant, la mort de ce paysan engagé et révolté est loin d'être anecdotique. Elle révèle la manière dont se passent les contrôles dans les fermes et la perte de sens qu'éprouvent les paysans face à l'absurdité d'un système agricole qui leur impose des normes pensées pour l'agro-industrie. Elle révèle aussi la colère et l'angoisse d'une profession à bout de nerfs qui n'en peut plus et sur qui pèsent toutes les suspicions.
Alors si je comprends bien, cette mort qui est une tragédie humaine, c'est aussi le symptôme d'un système, d'une agriculture toujours plus industrielle. Mais cette détermination que tu vas nous raconter chez des proches de cet agriculteur, ça me fait penser à une phrase qui s'est dite cette semaine et qui a peut-être été assez mal interprétée.
Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Alors oui, avouez-le, beaucoup d'entre vous se sont peut-être allés savoir pourquoi, vu plutôt dans la peau de ces fainéants, contre la transformation. D'ailleurs, les paysans, c'est pas des fainéants, ça. Ils regardent l'herbe pousser et ils attendent que les baies s'engraissent.
C'est bien connu.
Mais cette détermination absolue qui ne cédera rien, et là je cite notre président, ça m'a fait penser à une deuxième fable, celle que va nous raconter Antoine. La véritable histoire des trois petits cochons dans leur maison de paille. Ceux qui cherchent, méchants loups ou pas, d'autres manières d'habiter la campagne.
Oui, comment travailler le pays? Le travailler comme le construire, le reconstruire ce pays, ce territoire rural désertifié. Eh bien, ça commence par l'habiter, l'habiter intelligemment. Et il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens-là, à milieu du cauchemar pavillonnaire qui hante les abords des villes et des villages. Et c'est à l'Espiette, dans la commune d'Uzest, en Gironde, sur un chantier d'une coopérative d'habitants que je vais vous emmener tout à l'heure. Et ce ne sont pas des feignants, bien au contraire.
Comme un bruit qui court, c'est jusqu'à 17h sur France Inter. Deux fables d'aujourd'hui, deux histoires de nos campagnes qui refuse la normalisation. Ça commence maintenant dans la Saône-et-Loire avec l'hommage à un paysan qui n'est plus.
Le samedi 20 mai 2017, après une traque de 9 jours, Jérôme Laronze, éleveur à Trivi, a été abattu de 3 balles par les gendarmes dans des conditions révoltantes.
Là, il faut quand même se replacer dans le contexte. Il y a des gens qui sont venus avec des fusils mitrailleurs pour vérifier si des vaches avaient bien des boucles à l'oreille. Ça veut dire qu'on est dans un délire absolu. On n'a pas le droit de laisser faire ça, en fait.
Nous subissons au quotidien de fortes pressions administratives, financières et sanitaires. Notre souci du travail bien fait est remis en cause chaque jour.
Les normes, elles servent avant tout à faire disparaître les petits paysans pour concentrer dans les fermes qui pourront se payer les mises aux normes. Ils sont en train de nous faire disparaître. Et nous, on le sait, parce qu'on voit bien ce qui se passe sur les fermes, ce que ça veut dire.
Guy Routil, Charlotte Perry.
Notre système a perdu la raison.
Antoine Chao.
Comme un bruit qui court.
Quand il autorise l'empoisonnement généralisé des sols, de notre alimentation, et pinaille sur des détails insignifiants.
Hashtag comme un bruit.
Un peu plus tard que 8h, on est Square de la Paix à Mâcon. Et ce soir, il y a un grand rassemblement. Il y a des jeunes filles qui installent une grande banderole aussi, au-dessus d'une petite fontaine. Indignation. Beaucoup de gens avec des t-shirts blancs. Une photo de Jérôme, justice pour Jérôme. Il y a beaucoup de monde. Vous vous appelez comment ?
Marie-Pierre, je suis la sœur de Jérôme.
Une grande banderole, la mémoire et justice.
Ben, ce soir, c'est une veillée qui est organisée d'abord à la mémoire de Jérôme pour souvenir de ce qui s'est passé, dire son indignation. C'était quelqu'un qui était très engagé, donc effectivement révolté contre les injustices, révolté contre les aberrations du système. Et il est vrai, en révolte contre la façon dont fonctionne l'administration pour le monde paysan, tous les contrôles, toutes les contraintes réglementaires qui leur sont imposées. C'est aussi cette indignation-là qu'on veut dire que l'agriculture ne peut pas devenir une bureaucratie aux mains finalement de gens qui ont les moyens de la gérer et que toute la petite paysannerie devrait disparaître. C'est tout ça, ce mouvement. C'est aussi un citoyen qui a été abattu dans des conditions complètement monstrueuses, quoi. Après l'avoir chassé, traqué pendant 9 jours, et bien finalement, on lui a tiré dessus par des tirs latéraux et des tirs à l'arrière, donc des tirs qui nous montrent qu'il n'y avait pas de situation de légitime défense.
Dans la presse, il a été dit que, enfin, il était violent, qu'il avait foncé sur les gendarmes avec un tracteur.
Alors, une chose est sûre, c'est que c'était absolument pas quelqu'un de violent. Et si vous interrogez ses proches, tout le monde vous dira que c'était au contraire quelqu'un de plutôt placide, extrêmement respectueux. C'est quelqu'un qui avait toujours à cœur d'offrir un café, même à ceux qui pouvaient être ses pires ennemis, c'est-à-dire les agents de l'administration. Après, le fait qu'il ait pu foncer sur les gendarmes avec son tracteur, il est intéressant de se rappeler qu'il a contacté le journal local avant son décès, pendant sa traque, et il a dit qu'il n'avait pas foncé sur les gendarmes, il avait tenté d'effaroucher les gendarmes qui voulaient l'appréhender. Donc on peut considérer peut-être que c'était aussi un moyen de défense, de se protéger. Je crois qu'il se sentait extrêmement en danger, et les éléments qu'on détient montreront par la suite et qui seront remis au juge, montreront que c'était quelqu'un qui se sentait extrêmement en danger et qui avait donc des raisons de se sentir en danger puisqu'il en est mort.
Donc ce soir-là, ça fait un mois qu'il est décédé et le rassemblement va être organisé en sa mémoire.
C'est ici, hier, en fin d'après-midi, que les gendarmes tentent d'interpeller l'agriculteur.
France 3.
En fuite depuis une semaine.
21 mai 2017.
L'homme est retranché dans sa voiture, en haut de ce chemin. Les deux gendarmes à pied se dirigent vers le véhicule lorsqu'il démarre en trombe. Il tire à plusieurs reprises. L'homme s'effondre sur son volant et meurt sur le coup. Célibataire et sans enfant, l'agriculteur vivait seul dans cette ferme avec son élevage bovin. C'est au cours d'un contrôle sanitaire auquel il avait refusé de se soumettre qu'il avait pris la fuite. Aujourd'hui, une enquête a été ouverte pour définir les circonstances de ce drame et si les deux gendarmes étaient en état de légitime défense.
Vous connaissiez, vous, Jérôme ?
Bien sûr que je connaissais. J'habite à 15 km. À Cherizet, à côté de Sailly, ça touche.
Sailly, c'est là où il a été tué, Jérôme ?
Voilà, voilà. Devant ma barrière de près, oui. Devant ma barrière de près. J'étais en train de changer les couteaux de rotative, puis j'ai entendu des coups de feu. J'étais de l'autre côté de la montagne, à 800 mètres à vol d'oiseau. Et puis mon voisin, il avait des jumelles. Et puis on a vu arriver les pompiers, le SAMU, ainsi de suite, des gendarmes dans tous les sens. Et voilà, quoi. Puis j'ai dit, c'est sûrement Jérôme Larronce. Et puis personne n'a voulu me répondre. Même de sa famille qui sont venus. Et puis j'y ai su après, quoi. Il n'y a pas de mots pour exprimer, de toute façon. Ils ne voulaient pas se rendre, ils ne voulaient pas coopérer de leur truc. Mais il avait tué personne, il n'avait aucun délit à son actif, quoi. Ce mec-là, il était travailleur. Il se levait la nuit, Noël, le jour de l'an, pour faire naître ses veaux, pour faire téter ses veaux. C'était un producteur, il aimait son métier. Mais il était scandalisé, révolté, des contrôles. Ouais, t'as pas médaillé ton veau, il a plus de 8 jours, t'auras une pénalité. Oui, ta vache là, elle a pas ceci, pas cela. Voilà, c'est tout comme ça. Les veaux, on doit les déclarer dans les 8 jours. Si vous êtes dans le 9e jour ou dans le 10e, vous êtes en pénalité.
Ça s'appelle la notification des animaux.
Voilà, notification. Ouais. Sortie et entrée. Donc la vache, elle fait le veau, vous avez 8 jours pour le déclarer. Vous vendez une bête, vous avez 8 jours pour le sortir. Vous êtes en plein foin, vous êtes en ceci, en cela, vous avez autre chose à faire. Ouais. Donc on peut dépenser. Si vous dépensez le délai, c'est tout marqué. EDE, paf! Votre bête, vous l'avez vendue à tel marchand, telle date, vous avez dépensé. Pénalité.
Pénalité, c'est une aide en moins.
Voilà, oui, c'est bah c'est-à-dire sur une somme de 1000 euros, par exemple, on vous enlève 5%. Ouais. Mais ce n'est pas des contrôles. On vient chez toi pour essayer de te piéger. C'est différent. Mais tu fermes ta gueule et tu fais ce qu'on te dit de faire. Et le monde agricole, bah, ils acceptent ça. Il y a les trois quarts, c'est des moutons.
Ras-le-bol d'énormes administratives contraignantes et de plus en plus nombreuses.
Pour moi, il n'y a pas un modèle agricole. C'est un faux débat. C'est ce genre de débat que la France adore.
On met des normes régulièrement. C'est-à-dire que vous avez un millefeuille qui commence à s'épaissir de plus en plus. Aujourd'hui, très clairement, on a une indigestion.
Nous avons besoin, vous avez besoin de l'Europe.
Oui, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Philippe Felvar. Je suis venu avec un copain, Eric. On arrive du Puy-de-Dôme. Qui est arrivé ici. C'est quelque chose d'inadmissible. Et très franchement, très peu de gens en entendent parler à la télé, à la radio. Parce que c'est pas important, un paysan qui meurt. On s'en fout. Au niveau des grands médias nationaux. Les paysans, ils s'en suicident à peu près 1,5 tous les jours. Un de plus, un de moins, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Moi, je suis là pour dire, non. Il faut qu'on arrête ce massacre. Je vous remercie.
Là, il y a eu 10 suicides de paysans de moins de 50 ans depuis 6 mois à 50 km à la ronde. Je peux vous citer les noms, c'est incroyable. Savigny-en-Revermont, Bercy-les-Forges, Ouroux-sur-Saône, Gourdon, Perreuil.
Chaque année, 600 agriculteurs se donnent la mort. Le chiffre est sans doute en deçà de la réalité.
Et c'est tout des gars, il y en a même que j'ai des noms, quoi.
La chute des cours, les normes de modernisation, la suppression de certaines aides ont entraîné Dominique dans la spirale du surendettement.
Le dernier, il avait 24 ans, sa femme était enceinte de 6 mois. Mais c'est, on fait rien, quoi.
Si vous faites, si,
bah parce que plus d'argent, plus rien. Donc pour que leur famille survive, quoi.
En 3 ans, ses revenus ont baissé de moitié malgré 15 heures de travail quotidien. Un sentiment d'échec insupportable.
Ils nourrissent la France, entretiennent ses paysages, se lèvent tôt, ignorent les 35 heures et les congés payés.
Suicide des agriculteurs. En moyenne, en France, un tous les 2 jours.
Ce drame nous touche, car Jérôme, c'est nous.
Vous n'avez pas droit au chômage, vous avez droit à rien.
C'est nos maris et peut-être nos enfants un jour.
Puis quand vous retrouvez un travail, ben vous avez les dettes qui suivent, quoi.
Nous subissons.
En 76, par exemple, une génisse charolaise que je vendais 33 francs, aujourd'hui la même, c'est 24. On perd 10 francs du kilo, 1,50€. 450 kilos, ça fait 700 euros de moins. Une bête, c'est rien, mais quand vous en vendez 50, faites le calcul. Ça fait 35 000 euros. Par rapport à 40 ans, 1000 litres de gazole, ça valait 50 euros. Aujourd'hui, ça vaut 800 euros, quoi. Et quand vous vendez votre bête 30% de moins cher qu'il y a 40 ans, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Il n'y a plus d'issue, quoi.
Nous avons besoin, vous avez besoin de l'Europe.
L'agriculture qu'on assassine, qui coule, coulera demain.
Mais oui!
L'agriculture du magazine, inexorablement s'éteint.
Il faut un modèle parfois plus intensif.
Tout ça parce que les profiteurs, intermédiaires patentés, avec le lait bien du malheur, font leur beurre dans l'impunité.
Alors, le samedi 20 mai 2017, Jérôme Laronze, éleveur à Trivy, a été abattu de 3 balles par les gendarmes dans des conditions révoltantes. Aucune situation d'irrégularité administrative en agriculture ne peut justifier qu'un paysan soit abattu comme un criminel. La situation de Jérôme et sa détresse étaient bien connues des services de l'État. Nous déplorons que ces services n'aient pas recherché la médiation lors du contrôle du 11 mai. Au contraire, c'est l'escalade dans les méthodes et les moyens qui a été employée, accentuant l'encerclement de Jérôme et sa fuite. Tous ceux qui veulent ici prendre la parole, le micro sera ouvert. Ensuite, en fin de soirée, quand la nuit va tomber, ceux qui le veulent pourront déposer une bougie en mémoire de Jérôme. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais passer la parole à Marie-Pierre, sœur de Jérôme. Et merci à tous.
L'agriculture qu'on assassine, qui coule, coulera demain. L'agriculture d'immagazine, inexorablement s'éteint.
Mais oui.
Bonsoir à tous. Alors, pour vous dire qui était Jérôme, j'ai tout simplement repris le début d'un courrier qu'il avait adressé le 16 juillet 2016 au service vétérinaire. Ce courrier vous dira la personne qu'il était. Est-ce que c'était une personne violente qui s'opposait au contrôle ou au contraire, est-ce que c'était une personne harcelée qui n'en pouvait plus de contrôle administratif qui se succédait et dont il ne comprenait ni le sens ni la portée. C'est un courrier qui commence. Je fais suite au contrôle réalisé sur mon exploitation les 6 et 22 juin 2016. Je vous précise que je n'ai pris connaissance de votre courrier initial du 31 mai 2016 que le 2 juin, pour un contrôle devant débuter le 6 juin suivant sur l'ensemble de mon exploitation, ce qui ne permettait pas dans un délai si court le rassemblement et la contention de l'ensemble du cheptel, c'est-à-dire à peu près 120 bêtes. On reprochait à Jérôme une opposition à contrôle parce qu'il n'avait pas intégralement rassemblé et contenu son cheptel dans un délai de 4 jours. Je vous rappelle d'ailleurs que les conditions dans le contrôle s'est déroulé le 6 juin en présence de 8 gendarmes et sans me permettre pour ma part d'être accompagnée et soutenue par mes proches ont été particulièrement traumatisantes et indignes puisque la présence des forces de l'ordre, armes au poing, jusque dans les prés, a provoqué un affolement de mes animaux et que 2 bêtes sont mortes ce même jour pendant les opérations de contrôle après s'être jetées dans un ravin. Jusqu'au contrôle du 22 juin dernier, chacune de vos interventions a conduit à une restriction de mes droits et revenus et un affaiblissement de mon exploitation, compromettant ainsi tout espoir d'amélioration de ma situation et volonté de reprise en main de celle-ci. Voilà, je pense que ce courrier permet de retracer exactement qui était Jérôme, les conditions dans lesquelles les contrôles intervenaient et effectivement la vision de l'administration totalement éloignée des contraintes paysannes. Voilà, je pense que ça peut tous vous interpeller compte tenu du drame qui a suivi le dernier contrôle qu'il a subi le 11 mai 2017.
Honnêtes gens, bien dans vos vies, cessez de dire bien fait pour lui, car c'est un gars qui vit sa vie. Honnêtes gens, pas de soucis, soyez tranquilles, il sera puni, car ça dérange qu'il vive sa vie. C'est un dangereux malfaiteur, à la rescousse les artilleurs, à tous contraints, on l'aura bien. 3 balles, ben quoi, c'est 3 fois rien. Sauf pour Jérôme, assassiné, sur ordre de vulgaire gratte-papier. Honnêtes gens, bien dans vos lits, dormez tranquille. On a puni un pauvre gars qui voulait vivre sa vie.
Alors j'aurais aimé appeler Laurent Pignatel de la Confédération Nationale, malheureusement son train a du retard. Ah, il vient d'arriver. Voilà, donc Laurent, je te passe le micro.
Oui, donc Laurent Pignatel pour la Confédération Paysanne. Il y a quelque chose qui est arrivé qui n'aurait jamais dû arriver en fait. Nous, Confédération Paysanne, effectivement, quand on a appris le drame, ça a été un choc absolu. Parce qu'effectivement, on ne fait pas notre métier de paysan pour en arriver là. On ne fait pas notre métier de paysan pour être traqué dans nos fermes, pour vérifier si, à la virgule près, tout ce qu'on fait est conforme aux règlements européens, aux directives européennes. Et on est dans une oppression et on est dans une disparition organisée du monde paysan. Je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue. Les paysans, il faut qu'ils disparaissent. Il faut qu'ils disparaissent au profit de fermes-usines, au profit de grosses structures. Et tous les moyens sont bons pour les faire disparaître. Alors là, bien évidemment, c'est excessif mon propos par rapport à ce qui est arrivé. Mais quoi qu'il arrive, la réglementation, elle oppresse les paysans. On a initié, nous, suite au drame qui s'est produit ici en Saône-et-Loire, à la Confédération paysanne nationale, une grande journée pour faire le point sur comment doit se passer un contrôle sur une ferme, un contrôle apaisé, en fait. Il y avait énormément de gens qui ont participé à cette réunion. On a réussi à faire remonter des revendications qu'on va présenter au ministre, de manière à ce que plus jamais on puisse débarquer dans la cour d'une ferme avec des gens en armes pour aller vérifier si des vaches elles ont une boucle à l'oreille. Quoi. Parce que là, il faut quand même se replacer dans le contexte. Il y a des gens qui sont venus avec des fusils mitrailleurs pour vérifier si des vaches avaient bien des boucles à l'oreille. Ça veut dire qu'on est dans un délire absolu. On n'a pas le droit de laisser faire ça, en fait. Donc il faut absolument que nous, paysans, on se réapproprie ces règles-là, qu'on impose à l'administration, qu'on impose à l'État le fait d'avoir des contrôles qui aident le paysan à avancer vers du mieux, et surtout qu'on ne soit pas dans nos fermes la boule au ventre en disant « demain j'ai un contrôle, en gros j'ai la tête sur le bio et je vais y passer ». Ça c'est inadmissible, donc il faut vraiment, vraiment qu'on se mobilise très nombreux et qu'on ne lâche pas pour faire pression pour qu'effectivement toute la justice soit faite pour Jérôme. Parce que vraiment, c'est une double mort, quoi.
Et hier, justement, vendredi 8 septembre, le gendarme qui a tiré sur Jérôme Laronze a été mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort. C'est un premier pas et c'est déjà pas mal. L'enquête, bien évidemment, se poursuit pour comprendre les circonstances de sa mort, mais aussi les raisons du harcèlement administratif qu'il subissait. Alors, il est quand même intéressant de se rappeler qu'à chaque nouveau scandale sanitaire, de la vache folle aux lasagnes de cheval...
En passant par les poulets à la dioxine...
Ou alors, sinon il y a les œufs au fipronil.
C'est ça. C'est le même scénario qui se répète. Les industriels de l'agroalimentaire et les politiques répondent de concert par plus de traçabilité. De nouvelles normes sont imposées à tous les paysans pour que quelques-uns continuent la poursuite du profit maximal. Et c'est ainsi que quelques firmes géantes de l'agroalimentaire sont en train de transformer l'agriculture en une industrie où les paysans, comme Jérôme et tant d'autres, n'ont plus leur place. Et gare à ceux qui ne veulent pas rentrer dans le cadre.
Jérôme Laronze a été victime surtout du délire administratif qui accable les agriculteurs. Il est mort avec la complicité de la FNSEA et des syndicats dirigeants.
Bonsoir à tous. Nous sommes agricultrices dans l'Haut-Cunois-Mourvan. Ce drame nous touche car Jérôme, c'est nous, c'est nos maris et peut-être nos enfants un jour. Nous subissons au quotidien de fortes pressions administratives, financières et sanitaires. Notre souci du travail bien fait est remis en cause chaque jour. La signification du terme DDPP, Direction départementale des protections des populations, est une simple insulte à notre métier, car elle sous-entend que nous mettons en danger la population. Nous représentons ce soir la jeunesse agricole qui en bave, qui en chie tous les jours, mais qui ne veut pas trembler face à ces contrôles et cette administration. Nous adressons ce soir à la famille et aux amis de Jérôme toutes nos sincères condoléances et nous espérons que justice sera faite.
Je suis éleveur dans le Puy-de-Dôme aussi. Je pense que tous ici, on a eu des moments envie de ne pas supporter un contrôle ou de ne pas supporter un courrier qui redemande encore et encore des renseignements et ainsi de suite parce qu'il y a un acharnement. Il n'y a peut-être pas de secteur qui est aussi administré que l'agriculture aujourd'hui, quoi. Et ça, c'est un problème parce que bientôt, nos animaux, ils ne seront plus à nous. Ils seront à l'administration. Ils peuvent décider de les saisir, de les faire abattre parce qu'on n'a pas respecté la traçabilité. Et c'est pas normal. C'est pas normal parce que la traçabilité, ça sert pas aux paysans. Ça n'a jamais servi aux paysans. La traçabilité, c'est pour l'industrie. C'est l'industrie qui a besoin de traçabilité. C'est pas les paysans. Et à chaque fois qu'il y a un problème sur les produits, c'est pas les paysans.
Et sous couvert d'écologie ou d'autres choses, les normes, elles servent avant tout à faire disparaître les petits paysans
et les paysans un peu moins gros pour concentrer dans les fermes qui pourront se payer les mises aux normes. Les boucles électroniques de la même manière. Ils nous les imposent alors que nous, moi je fais de la vente directe. Ça ne me servira jamais à rien. Ils font de la gestion pour faire disparaître les paysans par les normes, par l'écologie, par l'environnement, par la traçabilité, sous couvert de mieux-être pour les paysans, de mieux-être pour la société. C'est-à-dire qu'ils nous mentent, ils mentent. Ils mentent à la société, ils mentent à nous. Et nous, on le sait parce qu'on voit bien ce qui se passe sur les fermes, ce que ça veut dire. On ne doit pas rester seul face à ça. Quand il y a des contrôles, on ne doit pas être tout seul dans sa ferme. On refuse ces choses-là. La traçabilité, il n'y a pas de raison de l'appliquer parce qu'elle est en train de nous mettre par terre. Voilà. C'est juste ça que je veux.
Lève-toi, paysan, mets ton pas dans le mien et retrouve l'empreinte laissée par les anciens. Eux aussi, un beau jour, ont dit non à l'engeance, celle qui te ronge et pourtant tu ne cries pas vengeance. Écrase-les, tous ces chiens qui disent c'est pour ton bien. Regarde-les, mais sans toi, ils ne sont plus rien. Ton honneur, ta fierté et même ta dignité, les charmeurs qui sourient ont les dents à serrer. Sur l'autel de leur misère, le lait de la colère. Sur l'autel de la misère, le lait de ta colère. Sur l'autel de ta colère, le lait de leur misère.
Il est à peu près 22h30. Il y a une petite vingtaine de personnes qui sont réunies autour de la fontaine où il y a une grande banderole, indignation. Ils ont déposé des bougies tout autour de la fontaine. Vous appelez comment ?
Cécile Dubard, je suis agricultrice en Saône-et-Loire depuis peu de temps. Céréales que je transforme en pain.
Et vous ?
Marc Grosellier, je suis paysan en Saône-et-Loire et membre de la Confédération Paysanne.
Est-ce que pour vous, ce qui s'est passé, ce drame, c'est... assez anecdotique, même si c'est dramatique, ou est-ce que ça traduit vraiment un malaise qu'il peut y avoir dans le paysan, notamment par rapport à ses contrôles ?
Il y a bien une chose qu'à la Confédération Paysanne, on veut, c'est réussir à sortir Jérôme de la rubrique des faits divers, parce qu'il a été très vite mis par les médias comme un bonhomme dangereux en cavale. Il n'était ni dangereux, ni malade, il avait besoin d'aide. Et quand on voit qu'il y a 200 fermes par semaine qui disparaissent au profit de l'agro-industrie et qu'il y a un agriculteur, j'ai entendu tout à l'heure, ennemi maintenant, qui se suicide chaque jour en France et qu'il y en a qui ont besoin d'aide et qu'on les tue, alors c'est pas un fait divers, c'est un vrai problème. C'est un énorme problème de société. Et quand un paysan se suicide, c'est des terres qui arrêtent d'être cultivées, c'est un paysage qui meurt, c'est des gens qui arrêtent de manger des produits locaux. Et donc je pense que c'est une interrogation de société entière.
Pourquoi il lui en voulait à ce point, l'administration ?
Des problèmes de traçabilité d'animaux, d'inventaire, de notifications qui n'étaient pas faites dans les délais, des choses qui ne présentaient pas de danger réel. C'était du laisser-aller, peut-être, mais ce n'était pas quelque chose qui justifiait qu'on vienne le cueillir chez lui avec des armes.
Je pense que Jérôme, il était fier d'être paysan et il ne supportait pas d'être humilié par des brimades, parce que ce sont des brimades, en fait, on est pris... de manière extrêmement condescendante, on est des petits-enfants qui n'ont pas correctement fait leur travail d'école. Il faut remplir des cases très précisément. Si on ne remplit pas une case, on a une subvention en moins. Si on a rempli une en trop, on a une amende. Et donc, je démarre, mais j'ai vu des fermes déjà et des agriculteurs se sentir humiliés à un point que le contrôleur parte et eux se mettent à pleurer tellement ils ont l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Et donc, je pense que lui ne supportait pas ça. Il ne voulait plus avoir affaire à l'administration.
On aimerait bien que l'administration ne soit pas là pour inciter à un développement industriel des exploitations agricoles. On voudrait que l'administration aussi comprenne qu'on a besoin des petites structures. Et c'est celles-ci qui font vivre les campagnes, ce n'est pas les grosses structures aujourd'hui. C'est quand il y a des petites structures que les exploitations se transmettent facilement aussi aujourd'hui. Alors que les grosses usines sont intransmissibles, elles sont polluantes, c'est celles qui polluent le plus aujourd'hui. C'est celles qui coûtent le plus à la société aujourd'hui. Et il faudrait que l'administration ne soit pas uniquement à la botte de ces grosses structures. Il faudrait quand même qu'on ait une autre considération quand on fait vivre des petites structures. Et on n'a pas de raison d'avoir les mêmes ennuis, les mêmes charges administratives que ces énormes usines.
Les réglementations sont les mêmes pour les énormes fermes que pour les petites. Et à un moment, quand on vient nous dire que ce qu'on fait, c'est de la merde, simplement parce qu'on ne rentre pas dans les cases, c'est pas entendable. Enfin... Allez.
récupérer notre table. On va s'en aller.
Vous étiez venu pourquoi, vous, ce soir ?
Moi, je suis venue parce que je trouve ça inadmissible qu'on tue des gens de cette façon-là. On n'avait pas le tué, c'est pour ça que je suis venue.
Vous connaissez ?
Ça m'a choquée. Moi, non, personnellement, non. Mon mari, oui, mais pas moi.
Vous êtes agriculteur aussi, pour votre mari ?
Mon mari est agriculteur, oui. On est à Soloni, nous, c'est pas loin.
C'est lui.
Ah, d'accord.
Vous travaillez pour quelle entreprise, vous ?
France Inter.
Ah ouais ? Bienvenue en Bourgogne,
vous. Vous vous appelez comment ?
Prota, moi, Gilles Prota. Prota, ça veut dire paysan révolutionnaire, organisé, toujours actif et travailleur. Et je suis simple paysan à Soloni, donc j'ai commencé 18 années noires de ma vie à la FNSEA, au Crédit Agricole, au Groupama, etc. J'étais même le président de syndicat de mon village, j'étais
vice-président. Vous avez
FNSEA ? Au départ, 18 ans.
Pour dire qu'il a viré sa crédit.
En 95, il y a eu pour la première fois une liste Confédération Paysanne en Saône-et-Loire. Donc j'ai adhéré, j'étais porte-parole de la Confédération Paysanne. Non, il faut savoir que Jérôme était un dissident de ce système. C'était un vrai paysan, c'est-à-dire il aimait travailler dehors, élever ses animaux. Mais il s'est vite heurté à tout un mécanisme d'industrialisation de l'agriculture auquel il n'a pas voulu adhérer, lui.
Donc on l'a cassé.
Parce qu'il ne voulait pas rentrer dans le... C'est-à-dire que s'il avait voulu, par exemple, installer un poulailler industriel de 1000 m², il aurait eu des aides. Mais lui, comme il voulait voir ses bêtes, d'ailleurs, il avait énormément de bêtes qui ne rentraient pas l'hiver, hein, en plein air. Ouais. Lui, il était content de voir ça. Mais ça ne rentre pas dans le système normal. Et d'autres agriculteurs vont malheureusement suivre le même sort. Peut-être pas aussi violemment, mais...
Ils vont se suicider avant.
Un petit détail.
Ils s'en font justice eux-mêmes.
Moi, je suis certifié bio. Il faut savoir que les primes Natura 2000 et les primes bio qui concernent l'exercice 2015 n'ont pas été versées. Et 2016 non plus. Jérôme Darroze était dans ce cas-là. Les comptables étaient incapables de faire un bilan arrêté au 31 août parce que la DDT, la Direction départementale des territoires, n'était pas capable de révéler le montant des primes restendues et la date de versement. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que même le gouvernement n'était pas capable de tenir les engagements. Par contre, je peux vous citer l'exemple d'un céréalier du Val-de-Saône qui a au moins 500 hectares de céréales. On ne vous dira pas la surface parce que même lui, il ne sait pas. Au 15 octobre, toutes les primes céréales ont été versées.
Donc, ça, c'est fait exprès, à votre avis ?
Bien sûr, c'est fait exprès. Nous, en Saône-et-Loire, il reste péniblement 5 000 paysans. Sur les 5 000 paysans, il y en a 2 000 qui ne sont pas à jour de cotisation sociale. Il y en a 1 000 qui n'ont plus de couverture sociale. Il y a eu, en 2016, 1460 défaillances d'entreprises, 640 qui sont en liquidation judiciaire. Mais c'est des gens qui travaillent, souvent 80 heures par semaine, qui mouillent leur chemise, ils n'ont rien à se reprocher. Sauf que le prix de vente de leur produit ne couvre plus les frais de production. Donc ils arrêtent, les uns après les autres.
Pensez, le revenu moyen, c'est combien ?
La plupart, c'est moins de 500 euros par mois. Et quand moi, ça fait 40 ans que je fais ce métier de fou, quand j'ai commencé dans mon village, il y avait 34 agriculteurs. Aujourd'hui, j'avais du mal à m'installer parce que je ne trouvais pas de terre. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à arrêter parce que je ne trouve personne pour reprendre ma ferme. Ces nouveaux seigneurs, mais SAI, de l'agroalimentaire, etc., qui ont tué tous les paysans en leur supprimant leurs revenus, parce que l'argent est concentré entre les mains d'une centaine de familles en France qui continuent d'en amasser.
Au premier temps de la vache, toute seule dans son pré, elle est là. Au premier temps de la vache, il y a l'éleveur, il y a la bête et il y a moi. Au deuxième temps de la vache, c'est à peine si je l'aperçois. Au deuxième temps de la vache, il y a du monde entre la bête et moi. Il y a le tueur qui passe la mesure, le transporteur qui lui emboîte le pas. Pendant que le ministre nous assure que la viande de la vache ne monte pas. Une vache à 1000 francs, en quittant le Morbihan. De bien chemin faisant comme par enchantement, une vache à 5000 francs, en arrivant au Mans, une vache à 5000 francs. On ne sait pas comment, augmente de 20% en traversant le Mans, et devient par conséquent une vache à 6000 francs, une vache à 6000 francs. C'est bougrement tentant pour les gens d'Orléans d'en faire innocemment une vache à 10000 francs, une vache à 10000. En sortant de la ville, pris dans un tourbillon, devient arpajon par un calcul habile, une vache à 20000. Au dernier temps de la vache, en rôti sur l'étal, elle est là. Au dernier temps de la vache, il y a un monde entre sa viande et moi. De la vache à son front. On en mangeait autant, autant qu'on en voulait, plus qu'il ne fallait à midi au dîner, dans le café au lait de la vache à 500 francs. C'est déjà plus gênant. Moi qu'on mange en moyenne 10 kilos par semaine, pour avoir mon montant, je privais les enfants de la vache à 1000 francs. Ce sera pour le jour de l'an. On la mangera truffée sur un grand canapé, on gardera le foie gras pour les autres jours du mois de la vache à 5000 francs. Ça devient décourageant. C'est pas qu'on soit méchant, mais un beau jour pourtant, il faudra bien qu'on sache qu'on ne peut plus suivre la vache. Oh la vache, la sale vache, oh la vache, nous prend la fou.
Comment on passe de la valse à trois temps à la vache à 1000 francs? Pour ceux qui se demandent, cette chanson de Jean Poiret date du 10 novembre 1966 et pour les autres, 1000 francs, ça fait 150 euros.
150 euros, c'est bientôt ce que va nous coûter un beefsteak chez le boucher. Mais en tout cas, c'est pas ce qui est payé à ces fainéants de producteurs. Alors, en attendant que l'enquête concernant la mort de Jérôme Laronze n'aboutisse, les rassemblements en son hommage se poursuivent tous les 20 du mois à Mâcon. Une page Facebook, Justice pour Jérôme, relaye toutes les informations et sachez aussi qu'un comité de soutien a été créé.
Affaire à suivre donc, cette mort de Jérôme Laronze. Après le poids du deuil, on passe à la légèreté de la paille avec cette deuxième fable. Puisqu'Antoine, tu t'es retrouvé dans un chantier participatif pour construire une maison de paille. Et la paille, c'est léger ça, non Antoine? C'est pas lourd?
Non, c'est lourd la paille, surtout quand tu vas en chercher des centaines de bottes dans les champs. Et là, c'est la véritable histoire moderne des trois petits cochons que je vais vous raconter. Les temps changent et contrairement aux contes traditionnels qui vantent les mérites de la maison faite de briques et de ciment, c'est la maison en paille qui aujourd'hui devient le meilleur rempart contre le grand changement climatique.
Attends, je te coupe. Grand changement climatique, rassure-moi, ça se passe pas dans les Antilles, ton histoire de maison de paille, par les temps qui courent.
Non, c'est en Gironde, il faut pas confondre la cause et les effets et se rappeler que c'est rarement les pollueurs qui trinquent les premiers.
Trois petits cochons.
Mais oui.
Charte d'accueil des chantiers participatifs. Bienvenue à l'Espiette.
Connaissez-vous la véritable histoire des trois petits cochons?
Être le changement que nous voulons voir dans le monde, voilà ce qui porte notre projet d'écolieu.
Les trois petits cochons doivent construire un abri car le grand méchant loup rôde. Le premier cochon a lu dans un magazine d'ingénieurs que les maisons, c'est en béton.
La rénovation écologique d'une bâtisse ancienne et la construction d'une maison en paille.
Les cochons n'ont pas d'argent pour construire leur maison. Ils décident de travailler ensemble. L'un va cueillir du chanvre et de la paille, tandis que l'autre récupère des palettes de bois pour faire des planches. Un beau travail collaboratif qui attire l'attention des animaux de la forêt. Et tous viennent les aider à assembler la maison.
Je suis étudiante en architecture. Cet été, je fais un tour de plein de chantiers participatifs en France, en autoconstruction et en éco-construction. C'est un nouveau modèle, on va dire. C'est sortir du modèle individualiste pour construire quelque chose de nouveau et le construire ensemble et se réunir pour être plus fort ensemble. Et dans quelques années, ce ne sera pas possible de faire autrement. Aujourd'hui, on est juste dans une utopie qui dit que on peut continuer à construire en béton et à ne pas isoler nos maisons, mais c'est juste impossible, quoi. Bon, aujourd'hui, il faut penser dès la base le fonctionnement bioclimatique de la maison. Et ici, c'est clair que c'est un lieu d'échange pour tous ceux qui pensent de cette manière-là.
Puisque c'est ainsi, je vais souffler bien fort.
Il souffle, et il souffle, et souffle encore. Mais ne réussit pas à faire tomber la maison. De colère, il dérègle le climat, crée des ouragans. Mais rien n'y fait. Tous les animaux de la forêt se sont réfugiés dans la maison. Alors, le loup, très très affamé et épuisé par son entreprise, finit par mourir de faim. Les animaux et nos deux petits cochons se retrouvent à une grande fête populaire. Ensemble, ils ont construit un immeuble collectif en bois et paille.
Moi, c'est Mika. C'est la dernière semaine de ces trois mois de chantier participatif. C'est chargé en émotions. Il y a beaucoup de gens qui partent aujourd'hui. Je voulais vraiment, vraiment sincèrement les remercier pour l'énergie que vous avez mis dans ce projet. On espère vous revoir bientôt. On vous souhaite bonne route, vraiment sincèrement. On espère qu'on aura semé quelques petites graines dans votre conscience.
Hey girls,
thank you very much.
Are you leaving?
Thank you very much.
You're leaving? All right. Yeah.
We are with Vincent. We just go down to say goodbye.
Where do you come from?
Italy and America.
Ils sont venus d'un peu partout pour participer à ce chantier, pour apprendre à construire en terre paille, à enduire à la chaux et à partager aussi. C'était cet été à l'Espiette en Gironde et ça continue ces jours-ci les travaux de cette coopérative d'habitants qui regroupe trois familles dans ce petit quartier à quelques kilomètres du centre-bourg du Zest. On appelle ça un quartier en Gironde, mais c'est juste quelques maisons regroupées au milieu de la forêt. Un ancien aérial, vestige de l'activité agropastorale, quand là-bas dans le sud-ouest, quelques familles se regroupaient pour subsister ensemble au milieu de la forêt, autour d'une petite clairière.
Con el camino normal de una vida, ¿no?
Oh, yeah, that's true.
One day, this is the dream.
No, no todos los lugares te ofrecen una sonrisa todos los días y aquí se encuentra eso.
Un té, un café.
Un café, je
Allez, ouais, je prépare ça.
Alors là, Mika, c'est la cuisine collective, c'est ça? C'est une
Exactement.
Construction
qu'on a faite pour accueillir tous les volontaires. Et du coup, on a une cuisine collective, un petit coin salon, après il y a une douche chaude et des toilettes sèches.
Du coup, qu'est-ce qui est en train de se passer ici, à l'Espiette?
À l'Espiette, on a acquis en collectif cette propriété qui fait 3 hectares, avec un potentiel de bâti et de construction, du coup, pour 3 familles. Donc on est 6 adultes et 5 enfants qui avons acheté et réussi à faire un prêt collectif. Ça a été une longue bataille administrative avec les banques. Et l'idée, c'est de faire de l'éco-rénovation à partir d'une grande maison en pierre qui fait plus de 400 mètres carrés habitables, où il y aurait 2 foyers et des espaces communs. Et puis de réhabiliter également une ancienne ruine agricole qui va devenir une maison. Donc l'idée, là, c'est d'utiliser des matières premières écologiques. Donc c'est principalement de la paille qu'on va chercher. Ça fait 2 années de suite qu'on va faire les moissons dans les champs. Les agriculteurs ont ressorti les vieilles machines, les petites botteleuses pour nous refaire de la petite botte de paille. Du coup, l'idée, c'est le terre-paille qui isole les murs. Des bottes de paille entières sur le toit. D'ailleurs, les maçons et le charpentier sont à l'action. De plus, il y a également un projet d'une entreprise agricole, donc des jardins agroécologiques. Tout ça est un projet grandement inspiré par la permaculture. L'autonomie alimentaire, la gestion des déchets, donc l'eau, les eaux grises avec la phytoépuration. Donc histoire de travailler sur la résilience avec le changement climatique. S'adapter à une situation de crise. Donc par exemple des grosses chaleurs, comme on a ici dans le sud-ouest depuis 15 ans, tous les étés avec des 40 degrés. Donc travailler avec, par exemple, replanter des arbres pour travailler sur l'ombre principalement, et la disposition des jardins par rapport au soleil, au vent, voilà, faire un maximum, faire travailler la nature pour pouvoir que les choses soient optimisées en fait et puissent s'auto-gérer en cas de crise climatique, c'est-à-dire des grosses pluies, ce genre de choses.
On fait un petit break.
Alors ça, c'est votre projet que vous mettez en place, et ce qui est surprenant quand on arrive ici, c'est qu'il y a alors plein de gens qui viennent un peu de partout dans le monde,
oui,
pour vous aider à ce que ça soit possible.
Oui, tout à fait. Donc on travaille avec un éco-constructeur, Thomas, qui est spécialisé lui en isolation avec la paille, et qui est aussi encadrant de chantiers participatifs. Donc du coup, avec lui, on a mis en place depuis un an, là, ces premiers 3 mois de chantiers participatifs. Et du coup, on a fait des appels sur Internet, sur Workaway, sur Twiza principalement, plus d'autres plateformes. Un appel à chantiers participatifs et à des formations, en fait, fondamentalement sur l'isolation. Donc voilà, depuis 3 mois, on accueille vraiment des gens du monde entier. Là, cette semaine, on a la Grèce, l'Argentine, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, pas mal d'Européens, des Chiliens. Du coup, tout ce petit mélange, quand il y a un objectif en commun, ben, ça se passe juste merveilleusement bien. Après, voilà, avec toutes les difficultés d'encadrer 20 personnes tous les jours, avec l'intendance des repas.
D'accueillir.
Et ça. D'accueillir, ouais. Surtout, ouais, bien sûr. Il va y avoir 3 ans de chantier participatif pour la réhabilitation de tout ça. Sans parler d'une expérience communautaire en soi, parce que nous ici, on n'est pas du tout communautaire. On essaye de combattre ce préjugé-là, parce que l'idée, c'est de proposer à notre société une autre façon un peu de voir le vivre ensemble, avec des coopératives d'habitants, puisque c'est ce que nous sommes, une coopérative d'habitants, en fait, oui, fondamentalement.
C'est le collectif plutôt que le communautaire, c'est ça?
Voilà, on travaille vraiment sur le collectif et la coopération, en fait. L'idée de notre projet, c'est vraiment incarner ce qu'on voudrait voir dans le monde, quoi. Arrêter d'attendre de la société, enfin des politiques fondamentalement, juste prendre en main notre vie et puis du coup de faire ce qu'on a envie de rêver, quoi. Tout ça est parti d'un rêve il y a 4 ans, sous les étoiles un peu, hein, ça fait un peu cliché, mais c'était vraiment ça. Se rêver une belle maison avec des matériaux écologiques, respectueux de l'environnement, respectueux des humains, en limitant le chauffage et en réfléchissant à comment on peut avoir une autonomie alimentaire. Et puis de voir que la force du collectif, eh ben, elle amène à des belles choses, quoi.
L'hiver est très très froid et le grand méchant loup, très très affamé, rôde.
Il faut la tasser cette paille, c'est ça?
Ouais, c'est ça, faut éviter les bulles d'air. Ce serait dommage que l'humidité se loge dedans. Donc on tasse.
Le premier petit cochon a froid dans sa maison. Il n'a plus de pétrole pour se chauffer. Et le loup rôde toujours. Il va donc au village pour chercher du pétrole. Mais le pétrole, c'est cher. Très, très cher. Sur le chemin du retour, le grand méchant loup est là.
Petit cochon, viens chez moi, je pourrais te donner du pétrole. J'en ai un gros stock.
Ils entrent dans la forêt tous les deux. Le grand méchant loup le mange. Les deux autres petits cochons ont accueilli tous les animaux de la forêt. Bon, ils sont à l'étroit, mais tout le monde cohabite très bien. Leur maison a des murs si épais qu'ils n'ont pas besoin de chauffage. Les rayons du soleil et la chaleur animale suffisent.
Petit cochon, laissez-moi entrer dans votre maison.
Ah non ! Par les poils de nos manteaux, tu n'entreras pas dans notre maison.
Par un bruit qui court !
Et la bétonnière s'est arrêtée.
Ouais, et ça fait du bien quand ça s'arrête.
Pour pas que ça colle.
Et toi, tu découvres ?
La construction en dur, en vrai, oui. Moi, je fais de la construction de décor, donc de l'éphémère. Donc là, j'apprends à construire du durable et du vrai durable écologique. Donc c'est pas du tout les mêmes techniques. Je fais des feuilles décor, du coup, là, je fais des murs en paille. C'est plus durable dans tous les sens du terme. Parce que en ce qui concerne les constructions de décors, on ne peut pas dire qu'on soit dans l'écologie. Et donc, j'ai envie d'apprendre d'autres choses. Tu mets les mains dedans, quoi, vraiment. Mmh. Tu te salis, et puis tu comprends un peu mieux les ressources que chacun en a et les ressources de l'extérieur. Quand on est allé chercher les bottes de paille, c'était une grande première pour moi. Un grand champ comme ça, plein de bottes de paille. Je me serais cru dans un film américain, Farmer. C'était assez éprouvant. On a quand même ramené 1800 bottes de paille sur des grosses remorques. Ah bah, c'est un moment assez unique. Bon, comme beaucoup ici, hein, c'est que des premières.
Mais, ouais, et c'est pas du cinéma, quoi.
Voilà.
Et on sait d'où ça vient. C'est important quand même. D'où ça vient, les bottes qui sont posées dans le champ.
Là, je veux pas vous freiner dans notre chantier. Ouais.
Faut qu'on apporte.
Je peux vous aider, hein. Je peux prendre.
Je sais pas si tu vas y arriver. Tiens, vas-y.
Je vais
discuter en mangeant des tortillas ce midi.
Oh, ouais.
Je crois qu'il y a des tortillas espagnoles. Ah ouais,
encore. Je vais mettre ce qu'il y a. Et ben voilà.
Vous avez besoin de
l'air
ou...
Ouais,
ça va. Faut demander, hein.
C'est bon, ça. Ça avance bien. C'est parfait.
On est sur la toiture. On est en train de mettre en place le quadrillage des litos qui servira en fait à supporter les bottes de paille. Donc, ils sont en fait l'isolation principale pour le toit.
Ah ouais.
Et voilà, donc on va les rentrer un peu en force, en ajustement serré. Et voilà. Et là, les litos ont été bien mesurés aussi, bien découpés. Et là, on les pose en fait. C'est ça, ouais.
Alors, ils apprennent vite, hein, les jeunes volontaires.
Les sauts de béton sont lourds, mais ça, c'est normal.
Alors, ça, c'est quoi comme béton, ça?
C'est du béton de chaux, ça. Mm-hmm. De sauts de chaux pour 20 pelletés. De grave.
Pas de ciment. Interdit.
Non, pas de ciment. Non.
Interdit le ciment?
Ah ouais. Strictement interdit.
Tout le Lafarge.
Ouais, ouais.
Parce que là...
Alors, elle était dans quel état, cette bâtisse, là?
C'était encore habitable. C'était... Elle était dans son jus, quoi. Donc elle était encore habitée il y a quelques années.
Ouais, c'était ancienne.
Rustique, quoi.
Rustique, ouais.
Tous les deux, donc vous êtes artisans, maçons, quoi, c'est ça?
Ouais, ouais. Auto-entrepreneurs, tous les deux. Ouais.
On va pas les tuer à la tâche. Hein,
non.
Du coup, il y a bien, en effet, il y a des artisans. On a besoin aussi d'artisans et de savoir-faire traditionnels. Donc, les maçons, donc du coup, il y a deux volontaires qui apprennent à travailler la chaux avec de la grave. Tout ça est très technique. Donc c'est encadré par des professionnels. Par contre, avec cette volonté, on les choisit nous aussi en se disant « Est-ce que vous êtes prêts à faire de la pédagogie aussi et à transmettre un peu votre savoir ?» Ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Vraiment pas. Donc, il faut les trouver.
Tu oublies straight at the...
Bon, allez, allez, dis ça.
Alors Thomas, c'est toi le maître espaille, le maître paille.
On va dire ça comme ça. Je me suis spécialisé dans la construction écologique. J'ai passé une licence professionnelle qui s'appelle conduite de projet en éco-construction à l'Université de Bretagne Sud à Lorient pendant un an. C'est déjà bien longtemps que je retape un peu des maisons et que j'ai les mains dans la matière. Et après, j'ai passé une formation qui s'appelle formation pro paille, qui accrédite des personnes à être capables de construire et concevoir des maisons en bois de paille et qui profitent aussi de pouvoir être assurables aussi au niveau des assurances. Puis j'ai beaucoup étudié seul, lire beaucoup de bouquins, beaucoup discuté avec des gens qui faisaient ça de manière professionnelle aussi. Et puis,
Alors moi je suis Lucille. Moi j'ai toujours eu envie de ce projet là. Ça c'est, je pense que c'était un de mes rêves de gosse. Donc moi ce qui m'intéresse dans ce projet, si je suis très honnête, c'est plus tu vois le process que l'aboutissement. Parce que ce process-là, où il y a des gens du monde entier qui viennent dans un esprit participatif, collaboratif, ils viennent coopérer pour construire un projet participatif et écologique, ça, c'était un de mes rêves, quoi. J'ai beaucoup voyagé quand j'étais jeune, et j'ai rencontré ces lieux-là, par hasard, en stop, au bout du monde, voilà. Et j'ai adoré ces endroits-là, je me suis toujours dit, j'aimerais bien créer un endroit comme ça, où il y a des gens qui puissent se retrouver autour d'une table, autour de valeurs communes, et qui viennent de partout, et qui puissent... Tu vas partager des moments, voilà. Et c'est exactement ce qui se passe ici, donc je suis très 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 heureuse de ça, quoi. Ça c'est sûr, voilà.
Lucille, tu fais partie c'était une des trois familles qui va s'installer ici.
Voilà, ça, ouais. C'est ça, on est trois familles, donc il y a mon compagnon et moi, puis on a deux enfants, il y a Walid et Nissaf, qui sont franco-tunisiens, qui ont trois enfants, et Michael et JB, c'est nous les six adultes et les cinq enfants du lieu. Avec Walid, on y pense depuis 20 ans à faire ça, je pense.
Combien voilà. Ça coûte ? Combien ça vous coûte un projet comme ça ?
Je peux dire très exactement combien ça coûte, parce que je m'occupe de la compta. Ça coûte 422 000 euros. C'est vraiment 422 000, c'est tout compris, quoi.
Pour les trois familles ?
Pour les trois familles, l'achat du terrain, l'animation des chantiers participatifs et tout ça, quoi. Voilà, ouais. On va peut-être être à court à la fin, mais on verra bien. On verra. Enfin, ce type de projet, ça s'accompagne de changements de vie très très profonds, quoi. Voilà. On a tous, là, on a tous changé de vie, quasiment. Tu peux pas être schizophrène et puis faire, tu vas utiliser ta bagnole tous les jours pour faire 60 km et faire des projets, de rénovation écologique avec des projets coopératifs. Ça marche pas, ça. Voilà.
La véritable histoire des trois petits cochons. Savez-vous que partout et même près de chez vous, d'autres ont suivi leur exemple ? Rendez-leur donc visite.
Ok, nickel.
Allez, prenez-en de la graine, retroussez les manches et tentez-vous aussi l'autoconstruction, le terre-paille, le mortier et l'enduit à la chaux. Il y a des chantiers participatifs un peu partout, en France et ailleurs, pour apprendre et s'initier à toutes ces techniques de construction écologique. 360 projets à consulter sur le site Twiza en ce moment, dont celui de l'Espiette à Uzest. Et aujourd'hui, là-bas, à l'Espiette, il y a quelque chose d'un aérial contemporain qui se construit avec le souci d'une transition écologique et sociale du quotidien, avec le sourire et aussi la bienveillance. Allez, on y va pour donner raison aux trois petits cochons de l'Espiette.
C'était Comme un bruit qui court. Retrouvez ces deux fables dans nos campagnes et tous les liens sur le site de l'émission à l'adresse franceinter.fr. Laissez-nous deux messages, abonnez-vous au podcast et faites courir le bruit sur les réseaux sociaux. Juste après les infos, vous retrouverez Daniel Morin et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h pour une émission spéciale en direct, en public et en musique depuis la fête de l'Huma.